générique de la récréation, nous l'avons emprunté à un jeune musicien, un pianiste, interprète et compositeur. De formation classique, il est devenu musicien de jazz. Dans sa famille, il est rare qu'on échappe à la musique. Il est membre de la famille Kazatsu et c'est à lui que nous avons emprunté le générique. I'm Fine, Thank You est un titre de son album solo, Feathers. Tout va bien, Tomenko ?
Tout va bien et vous ?
Très bien, merci d'être avec nous. Merci de jouer ce générique. Nous allons passer une heure en votre compagnie et pour une fois, grâce à vous, notre générique ira jusqu'au bout. Tomenko en direct sur France Inter dans la récréation. Le générique, c'est lui. Nous lui avons emprunté ce titre extrait d'un album sorti en 2015, Feathers. Feathers, ça veut dire les plumes. Et ce disque, Tomenko, venez vous asseoir avec nous, c'était un petit peu de votre histoire extrêmement intime. Vous racontiez la fin d'une histoire amoureuse, mais aussi la reconstruction.
Exactement.
C'est éminemment romantique comme disque, non ?
Oui, tout à fait.
En tout cas, comme traversée.
C'était une sorte de catharsis de faire ce disque. En fait, c'était une période assez difficile personnellement où j'écrivais du coup tous les jours. Je me mettais au piano. J'habitais à New York. C'était l'hiver, il faisait froid. Et tous les jours, j'allais au piano et j'écrivais quelques mesures quelques motifs, je jouais avec, je les tournais dans tous les sens. Je savais pas trop ce que ça donnerait, et puis je les notais dans des carnets. Et puis, je suis revenu vivre à Paris quelques mois plus tard, et j'ai eu l'occasion de faire un nouvel album. Je me suis dit, bon, bah, puisque j'ai traversé toute cette période assez solitaire, autant faire quelque chose seul, aller jusqu'au bout du processus, et j'ai rouvert ces cahiers, et en fait, il y avait plein d'idées, plein de morceaux, soit complètement construits, soit quasiment... soit des ébauches, et puis voilà, ça correspond à cette période-là, et c'est pour ça que j'ai...
C'est un souvenir douloureux ou joyeux ?
Plus maintenant. Pas joyeux non plus, aller jusque-là.
Je parle de l'écriture, en tout cas, du disque.
L'écriture, c'était ni douloureux ni joyeux, c'était quelque chose qui soigne. C'était de l'ordre de la guérison, c'était comme des anti-inflammatoires, en fait.
C'est vrai.
Ouais, c'était vraiment les moments où vraiment ça allait pas, c'était le seul remède, c'était d'aller épancher ça dans le piano, et puis si possible de noter des idées.
En même temps, c'est un cadeau amoureux terrible que vous avez fait à cette femme.
Ah, c'était pas vraiment pour elle.
C'est quand même aussi son histoire que vous racontez, que vous livrez.
Je sais pas si c'est vraiment son histoire. Est-ce que c'est vraiment son histoire ? C'est la mienne, ça c'est sûr, mais ce qui est certain, c'est que dans ces cas-là, et peut-être même toujours, j'en sais rien, mais dans ces cas-là, en tout cas, on ne vit pas la même histoire, du tout. Donc je pense pas du tout qu'elle ait vécu de cette façon-là.
Est-ce que vous avez eu sa réaction après la sortie du disque ?
Oui. Oui, elle a beaucoup aimé le disque. Elle n'a pas dit grand-chose, mais mais ce qu'elle a dit était lourd de sens.
On s'arrêtera là.
On s'arrête là.
Est-ce qu'on peut tout raconter de soi en musique, Thomas Henkow ? En tout cas, vous, est-ce que vous êtes capable de tout raconter ?
Oui, et c'est surtout ce que je cherche. En tout cas, quand j'en suis pas capable, c'est ça le but. Je crois que la musique est vraiment quelque chose qui permet une impudeur totale. Surtout la musique instrumentale, quand il n'y a pas de paroles. Il y a quelque chose qui reste assez abstrait. Tout le monde va l'écouter et projeter des choses personnelles dessus, passées, fantasmées, présentes. Et du coup, c'est un terrain où on peut se livrer sans aucun tabou, sans aucune limite, puisqu'il n'y a pas de bien ou de mal dans la musique. On peut être extrêmement violent, on peut être extrêmement pervers, on peut être tout ce qui est noir en nous ou tout ce qui est triste, on peut le mettre dedans, au même titre que tout ce qui est très beau, candide et naïf et poétique.
Ah, c'est une ouverture à tout, alors.
Oui, complètement. Bah, c'est ça qui me passionne dans la musique, en tout cas, dans la composition et dans l'improvisation.
Comment il est, Thomas Henkow, quand il écrit ? Vous avez besoin d'être chez vous, dans un lieu particulier, dans une attitude particulière, à une heure particulière ? Comment ça se passe, la composition, chez Thomas Henkow ?
Oui, alors la composition, c'est quelque chose de très intime et j'ai besoin d'être dans un endroit, j'ai besoin de pas trop bouger, j'ai du mal à écrire quand je suis en tournée, ou alors ça va être que des idées qui viennent, une petite phrase musicale, un accord ou deux, mais jamais, jamais quelque chose de construit. Pour construire et pour aller profondément dans la musique, j'ai besoin d'être à un endroit géographique, donc ça peut être chez moi ou quelque part d'autre, mais au calme, avec un piano, évidemment. Et plutôt dans une atmosphère un peu isolée du bruit du monde. Voilà, j'ai pas l'impression d'être trop inspiré par le bruit du monde, par la ville, comme peuvent l'être d'autres compositeurs qui sont très inspirés par la ville, par exemple. Moi, non, ce serait plutôt la nature et plutôt le calme, et plutôt la solitude.
On va écouter un extrait d'un autre disque, le disque qui a suivi Feathers, c'est le disque Funambule. Vous n'êtes pas tout seul sur ce disque, il y a une amie à vous, désormais, je pense que vous êtes amie, c'est Vassilena Serafimova, elle est percussionniste, elle est bulgare, et on écoute le résultat.
Thank you.
Tomaenko, Vasilena, Serafimova, Eclipse. Il est de vous ce titre ?
Oui.
Et cette rencontre, vous la devez à quelqu'un qu'on a reçu il y a quelques semaines. C'est Gisèle Magnan.
Ah, Gisèle.
Gisèle. Oui, souvent vous dites « Ah, Gisèle » quand on vous dit Gisèle Magnan. Pourquoi vous dites « Ah, Gisèle » ?
Parce que Gisèle, je lui dois tellement. Je l'ai rencontrée quand j'avais 14 ans. C'était une rencontre un peu... C'était une professeure de musique de collège qui est très amie de ma maman, qui s'appelle Françoise Menghini, à qui je dois l'idée d'avoir rencontré Gisèle Magnan, parce que j'habitais en Seine-et-Marne.
Professeur de piano, pianiste bien sûr, mais professeur de piano et pédagogue, hein, Gisèle Magnan.
Voilà, exactement, qui a fait une grande carrière de pianiste concertiste jusqu'à décider de l'arrêter, parce que c'était pas la vie dont elle rêvait, et elle voulait se consacrer à la pédagogie et à monter des concerts, organiser les concerts de poche dont vous avez sûrement déjà beaucoup parlé avec elle, qui est une organisation essentielle.
qui permet d'amener la culture en dehors des salles traditionnelles, dans les campagnes, à la campagne et dans certaines banlieues aussi. Hein.
Et de faire des ateliers pour des enfants dans des collèges, dans des centres sociaux, enfin c'est indispensable aujourd'hui.
Et elle vous enseigne donc le piano classique à 14 ans.
Piano classique, voilà, depuis que j'ai 14 ans. Donc j'avais eu pas mal de professeurs différents avant. Mais quand je suis arrivé chez elle, alors moi j'étais un peu comme maintenant, en moins bien. C'est-à-dire je faisais un peu de classique, un peu de jazz, un peu de violon, un peu de piano, un peu de tout. J'écrivais un peu, mais j'étais très très sérieux dans rien. Enfin, je m'identifiais à rien, à 100% en fait. Et du coup, je suis arrivé très intimidé en sachant qu'elle n'avait que 6 ou 7 élèves et qu'elle était très sévère, on m'avait dit, et très dure. Et en fait, voilà, je lui ai joué un mouvement de la Sonata Passionata de Beethoven que j'ai massacré. Et elle m'a quand même pris dans sa classe.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Gisèle Magnan, Tomaenko ?
Bah, à peu près tout, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de piano et de technique pianistique, j'ai le sentiment qu'elle a complètement réformé et reconstruit ma technique, ce qui, à 14 ans, n'était pas du tout trop tard. Et on continue, d'ailleurs, je la vois très régulièrement. J'ai cours avec elle lundi prochain, parce que je vais bientôt faire des concertos pour piano. J'ai besoin d'aller beaucoup plus loin dans ma technique aujourd'hui. Et pas que la technique, dans la musique, elle a une vision. C'est un des très grands professeurs de piano, enfin, je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. J'en ai jamais rencontré d'autres, en tout cas, qui aient cette vision extrêmement haute, en fait, dans la technique pianistique et dans la musique.
Et c'est elle qui vous permet de rencontrer Vasilena Serafimova.
Exactement.
La percussionniste.
Ouais, parce que elle avait entendu Vasilena à un concert en France, je crois, grâce à l'intermédiaire d'une autre pianiste qui nous a beaucoup soutenu avec le duo, qui s'appelle Chantal Stigliani, qui est celle qui a fait venir Vasilena de Bulgarie en France et qui l'a encouragée à venir vivre ici il y a 12 ans maintenant. Et bref, Gisèle Magnan entend cette fille jouer des percussions du marimba et elle trouve ça extraordinaire. Et puis elle m'appelle après en me disant « Bon, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, ça va être super entre vous, je vais vous organiser un concert, c'est dans 6 mois ». Voilà les coordonnées de chacun, rencontrez-vous. Moi je lui ai dit, mais c'est quoi c'est quoi le marimba, c'est quoi les percussions classiques, j'y connais que dalle, et puis surtout il n'y a pas de répertoire pour ça et le piano. Elle a dit, oh, vous débrouillerez très bien.
Ce que vous avez fait.
Bah oui, en fait, sans pression à la base, parce que nous avait autorisé à faire sinon un demi-concert chacun, puis voilà.
Il y a eu un disque, il y a maintenant une tournée, vous continuez de travailler ensemble.
Ça fait 7 ans et demi maintenant.
Et sur un des titres du disque, eh bien, vous jouez et vous chantez.
Da perde,
deuxième extrait du dernier disque de Thomas & Co. avec la percussionniste bulgare Vasilena Serafimova. Ce morceau est un air traditionnel folklorique bulgare d'Ilmano d'Ibero. Et puisque nous avons un piano avec nous et un Thomas & Co., eh bien on a demandé à Thomas de jouer un autre morceau. Quel est-il? On ne le sait pas encore. Il va le décider dans les secondes qui viennent. Thomas & Co. Thomas & Co, toujours en direct dans la récréation. Ah, c'était quel titre ça, Thomas?
Mischievous.
Mischievous, extrait du disque Feathers, un autre extrait du disque Feathers. On écoute quelques membres de la dynastie Kazatsu. On va commencer peut-être par le frère David & Co et son carnaval jazz des animaux.
Une famille de cygnes vient à passer. Je les vois au loin s'avancer. Leur plumage est blanc comme la neige. C'est sans doute l'heure de la promenade. Thank you. La mère est hautaine, le père bougon, et le petit ne cesse de piailler.
On est bientôt arrivé ?
La mère laisse le père répondre.
Bientôt, oui, oui, marmonne ce dernier.
Et la mère, de poursuivre sa route, la tête haute et le regard distant. Elle doit se dire qu'ils sont une famille parfaite. Et parfaits, ils le sont. Mais pas pour les raisons qu'ils imaginent. Chez moi une seconde nature. Et quand les signes arrivent à ma portée, je bondis comme un beau diable. Ah, ah, je fais en les attrapant. Sans plus de cérémonie, je les plume et me voilà fin prêt pour le carnaval. Mon habit de plume blanche tromperait même le plus soupçonneux. Je pousse un petit cri. Bée ! C'est impeccable.
Thank you.
Thomas & Co, pourquoi riez-vous?
Parce que je m'attendais pas du tout à entendre ça, en fait.
Alors ça, d'abord, c'était le carnaval des animaux. Et puis ensuite, c'était le blues de Caro, extrait du Jazz et la Diva. Alors Caro, c'est maman, hein. C'est Caroline Casadesus. Faites attention à ce que vous dites, elle vous écoute. Elle vient de mettre un petit message sur la page Facebook de la récréation. C'est aussi...
Salut, maman.
Bonjour maman. C'est aussi Didier Lockwood, David Enco et Thomas Enco qu'on entendait là.
Oui, oui, oui.
Alors pourquoi ça vous fait rire?
Mais alors, parce que j'ai pas entendu ça depuis des années, mais de nombreuses années.
Ça date de quand?
Ça date de début 2008. Donc ça va faire 9 ans bientôt. Mm-hmm. Et c'était un extrait d'un spectacle, du spectacle Jazz et la Diva Opus 2, qu'on avait créé en famille. Donc Didier Lockwood, qui à l'époque était marié à ma mère et qui était notre beau-père à David et moi. Ma mère, Caroline Casadesus, David, qui joue de la trompette et de la basse électrique dans le spectacle, et moi je joue du piano et un peu de violon. Le saxophone, c'est Didier, il me semble. Bah oui, je vois pas qui est d'autre.
Et c'est régulier, ces rendez-vous en famille? Vous trouvez toujours une occasion de jouer ensemble?
Plus maintenant avec Didier, parce que bon, voilà, la famille a un peu explosé il y a quelques années. Mais ma mère, David et moi, oui, et Didier et moi, oui, toujours de temps en temps. Donc on a séparément des rapports qui sont toujours bons et on collabore ensemble et on travaille, on se voit en dehors aussi, mais plus tous les quatre. Aussi parce que c'était un spectacle qui était légèrement romancé, mais qui était quand même sur la réalité de la famille recomposée et de la vie qu'on vivait ensemble. Et le mariage, les différences entre le classique et le jazz. Voilà, ça a été une période géniale pendant laquelle on a beaucoup travaillé, beaucoup donné ce spectacle. C'était à la Gaîté Montparnasse tous les soirs, d'abord pendant 6 ou 7 mois, après en tournée.
Ça vous a formé à la scène aussi?
Bah, on avait eu la chance d'être déjà pas mal formé à la scène, parce que à l'époque, moi, j'avais quand même déjà 19 ans, en gros.
Ça a complété votre formation.
19, 20 ans, j'avais déjà beaucoup joué, fait plusieurs albums, etc. C'était une autre expérience. C'était du théâtre. C'était pas des concerts, c'était du théâtre. Il y avait une mise en scène à respecter, du texte, voilà. Et d'ailleurs, ce morceau, les paroles sont un peu débiles en fait, mais elles vont avec.
C'est ça qui vous faisait rire, surtout.
Bah oui, mais c'était à la fin du spectacle et c'était une sorte de blague par rapport à ce qui s'était passé avant. Donc c'est vrai que sorti de son contexte, c'est très rigolo.
Si on n'évoque pas le grand-père, hein, que vous appelez David et vous entre autres Dadia et non pas Pépé, ni papy, ni grand-père.
Ah non.
C'est Jean-Claude Casadesus. Si on ne diffuse pas, il serait peut-être malheureux. Alors on va écouter.
Moi, je serais malheureux.
Et vous très malheureux, bravo, le concerto en sol majeur pour la main gauche de Ravel.
Oh, qui joue?
Claudia Maffei.
D'accord.
Voilà, ça vous convient?
Bah oui.
Avec Jean-Claude Casadesus à la baguette. Thank you. Alors, vous avez écouté votre grand-père, qui est pour nous Jean-Claude Casadesus, hein, chef d'orchestre qui a été longtemps le patron de l'Orchestre National de Lille. C'était Ravel avec Plouder-Marer. J'allais dire, quel rôle a-t-il en tant que musicien dans votre vie, Thomas Enko, votre grand-père?
Déjà, il y a quelque chose de très, très profond dont je ne me rendais pas forcément compte quand j'étais plus petit, mais c'est un des premiers que je suis allé voir en concert. Quand j'étais petit, ma mère nous a emmené avec mon frère le voir diriger.
C'était impressionnant?
C'est très impressionnant. Vous imaginez, vous avez 2 ans, vous vous retrouvez, à la salle Pleyel ou à la Basilique de Saint-Denis, avec un orchestre, avec 100 musiciens, et votre grand-père qui dirige.
Le maître du monde.
Ouais, c'est ça. Et puis en entendant une symphonie de Mahler ou le Requiem de Verdi, ou j'espère, parce qu'en plus c'était des œuvres, j'ai des souvenirs un peu diffus d'œuvres très très monumentales comme ça. Et c'était merveilleux en fait. Une énergie qui se dégage, une poésie, mais c'est extraordinaire. Et puis il y a lui comme ça. En plus, moi j'adorais le film Fantasia quand j'étais petit. Alors, vous vous souvenez quand il dirige.
Alors, le ballet qui se multiplie.
Il y a le ballet, mais il y a aussi toutes les séquences où on voit juste en noir sur fond coloré le chef d'orchestre dirigé, et puis aussi le quand il dirige la mer avec les vagues, etc. Ça me faisait la même impression. Donc voilà. Ensuite, les années qui ont suivi, je me souviens pas très bien, mais je commençais la musique, donc c'était difficile d'avoir un rapport musical vraiment spécial avec lui. Mais en revanche, plus tard, quand je suis devenu bon, et mon frère aussi, qu'on a commencé à donner des concerts, il est beaucoup venu nous écouter parce qu'il est fan de jazz. Depuis, on parle tout le temps de musique. Là, quand je prépare des concertos pour piano et que j'en écris un et que je me mets à l'orchestration, je lui demande plein de conseils. Il m'a donné des partitions d'orchestre à lui, qu'il a avec toutes ses annotations dedans. Enfin, c'est assez génial. Il y a une sorte de passation qui se fait comme ça, de transmission, c'est pas le bon mot. Qui est vraiment super. Parfois, j'oublie un peu que c'est mon grand-père.
Il y a un jazzman qui compte, il n'y en a pas qu'un, mais lui, notamment un pianiste, vous faites un petit peu penser à lui d'ailleurs, c'est votre aîné, il a 45 ans à peu près, 47 ans, Brad Meldow, parcours assez commun, je trouve, que le vôtre. Il a démarré très fort, très, très jeune, et puis il est toujours là, peut-être un petit peu moins sous la lumière qu'il y a 15-20 ans, mais il est toujours là, il joue toujours, il crée toujours, et il aime beaucoup reprendre les Beatles, vous voulez bien qu'on écoute Blackbird.
C'est mon pianiste préféré, alors allez-y.
Thank you.
Thomas Enko, pourquoi aimez-vous Brad Meldo ?
Parce qu'il est, il y a dans son jeu et dans sa personnalité tout ce que j'aime dans la musique, c'est-à-dire une alliance de quelque chose de très intellectuel, très aérien, extrêmement brillant, avec un truc complètement viscéral, humain, voire animal en fait. Alors on peut décortiquer, analyser et dire que le truc cérébral, c'est toute sa pensée musicale, c'est sa technique incroyable de pianiste, et que son truc plus animal, c'est son groove, le groove qu'il a, la façon dont il chante, son phrasé. Mais bon, sans analyser, juste dans chaque note qu'il fait, ça s'entend. Quand il fait deux notes, moi je reconnais que c'est lui.
Vous l'avez rencontré ?
Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer pas mal de fois depuis 2008-2009. Souvent parce qu'il jouait à Paris et que j'allais à ses concerts et qu'après je me retrouvais avec des gens qui le connaissaient et qui me l'ont présenté. Et puis petit à petit, il s'est mis à me reconnaître. Et puis je lui ai offert quelques disques, il les a écoutés et il les a commentés. Il m'a envoyé des emails après, très détaillés, sur le disque en solo notamment. J'ai été vraiment hyper honoré, avec beaucoup d'encouragement et de critiques très constructives aussi. Et voilà, c'est vraiment, quand je dis que c'est mon pianiste préféré, je n'exagère pas.
C'est un peu un grand frère. Je le vois comme ça, moi. Je sens vraiment presque une gémellité dans votre façon d'aborder la musique.
Bah, je suis énormément nourri de sa musique et de son piano. Et donc forcément, c'est drôle parce qu'un jour, justement, dans un email qu'il m'écrivait sur un de mes morceaux, il me disait « Ah, dans tel passage, vers 5 minutes 27, tu fais un truc, j'ai l'impression que ça vient un peu de moi. » Et en fait, ce passage-là, moi, je trouvais que pas du tout. Et je lui ai dit, écoute, ce passage-là, pas vraiment, mais par contre,
mais
tout le reste.
Celui-là, oui.
Tout le reste, oui. Alors que t'en as pas parlé.
Thomas Enko, vous voulez bien jouer encore ? Il y a un titre que j'aime beaucoup et je sais.
Après lui, ça va être dur quand même.
Oui, mais allez-y. Il y a un titre que j'aime beaucoup et que pas mal d'auditeurs nous réclament aussi. C'est Letting You Go. C'est un autre extrait de votre disque en solo, Feathers, dont on parlait il y a quelques minutes. Thomas Enko au piano, en direct pour les auditeurs de la récréation sur France Inter.
Thank you.
Thomas & Co, Letting You Go, l'un des plus beaux titres à mes yeux et à mes oreilles de ce disque paru il y a quelques années, quelques mois on va dire, Thomas. Merci d'avoir été des nôtres,
merci,
Thomas & Co.
Merci Vincent.
Reçu ce jour, chère récréation, vous serait-il possible de jouer Way Down in the Hole, la chanson de Tom Waits, mais dans la version des Blind Boys of Alabama, merci, signé Basile.
If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon. Want to stay in their sight. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry. Hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil the devil.